Monsieur José Leroy, je suis l'éditeur de ce livre. Je travaille pour une maison d'édition parisienne qui s'appelle Almora. Et donc, ce livre est le troisième livre que nous publions sur Jean Klein. On a publié un autre livre de Jean Klein qui reprenait des anciens livres. C'était une réédition qui s'appelle La joie sans objet. Et nous avons aussi publié un livre de Nita Klein, de sa fille, sur son père. Le livre s'appelle À l'écoute de Jean Klein. Voilà, et celui-ci est donc le troisième, et je veux dire qu'on était très heureux de le présenter et de le réaliser. Donc, d'abord quelques mots sur Jean Klein. Alors, Jean Klein est, on va dire, un enseignant, c'est un enseignant spirituel. Je ne préfère pas dire maître, parce qu'il n'a jamais eu une posture de maître. Maître, ça ne lui irait pas du tout, c'était un enseignant spirituel. Qui est né en 1912 et mort en 1998. Il est né en fait, on sait assez peu de choses sur sa vie. Moi, je connais très bien ses filles, et elles sont très, très discrètes sur Jean Klein. Il tend à s'effacer, en fait. Sa biographie devient transparente, un peu comme lui. Donc, j'ai quelques rares renseignements sur sa vie, que peut-être vous avez aussi d'ailleurs, parce qu'on peut les trouver sur Internet. Disons que ce qui est important de savoir, en tout cas, donc, c'est qu'il est né en Tchécoslovaquie, près de Prague, où il a ensuite vécu, d'où d'ailleurs son accent, hein, qu'il avait un accent un petit peu comme ça, traînant, un peu allemand. Il est né, ça c'est intéressant, parce qu'il sera violoniste, donc il était d'une famille de musiciens et d'artistes. Il a commencé à s'intéresser à la spiritualité assez jeune, disons à l'adolescence, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et il y a une lecture qui, pour lui, a été déterminante, c'est celle de René Guénon. Voilà. D'ailleurs, c'est une lecture qui a été déterminante pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que c'est une œuvre majeure du XXe siècle. Et en découvrant cet auteur, il a senti en lui l'appel de l'Inde et le désir de s'y rendre. Alors, je vous passe des détails sur sa vie, puisqu'il y a eu la guerre, et bon, il s'est engagé dans la Légion, il a vécu en Algérie. Il a eu deux filles, Nita et Malavika. Nita est aujourd'hui comédienne, et Malavika est professeure de danse indienne. Toutes les deux vivent à Paris. Voilà. Et donc Jean Klein se rend en Inde, c'est ça qui nous intéresse, il se rend en Inde dans les années 50. Là-bas, il rencontre sans vraiment le chercher, mais on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc il rencontre un maître auprès de qui il reste pendant 3 ans, qu'il appellera Pandiji. Dans ce livre « Transmettre la lumière », il y avait une photo de Pandiji. Et ce maître est un enseignant de l'Advaita Vedanta. Alors peut-être juste 2 mots sur l'Advaita Vedanta. Donc Advaita Vedanta, je ne sais pas, vous connaissez peut-être déjà, oui. Advaita, disons quand même, Advaita signifie, c'est un mot sanskrit qui signifie non-dualité. On verra tout à l'heure en quel sens il y a non-dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, donc, il reste auprès de cet enseignant pendant 3 ans. Il rencontre aussi en Inde un autre maître remarquable, pour qui moi j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Krishna Menon. Krishna Menon a été aussi disciple de Ramana Maharshi, du grand Ramana Maharshi. Il y a en anglais d'ailleurs sur Internet, on peut lire gratuitement des notes de Krishna Menon qui sont tout à fait remarquables sur l'Advaita Vedanta. Voilà, donc Jean Klein rencontre donc des maîtres tout à fait remarquables. Aussi, il suit des cours de yoga avec Krishnamacharya en Inde. Et d'ailleurs, en plus de l'enseignement de l'Advaita, il enseignera aussi le yoga, un yoga très particulier, mais le corps, l'élément corporel est essentiel aussi dans son enseignement. Et puis, dans les années 60, il rentre en Europe et commence à enseigner. Et donc, ses entretiens seront par la suite publiés dans une demi-douzaine, oui, 6 ou 7 ouvrages qui sont remarquables. Moi, je n'ai jamais rencontré Jean Klein. J'aurais pu, je pense, à Paris, parce que je commençais à m'intéresser à la spiritualité vers les années 92, et il passait quelquefois en Europe. À la fin de sa vie, il est allé aux États-Unis, où il est mort en Californie, à Santa Barbara, exactement. Alors, ce livre, plus particulièrement, donc, qui s'appelle « Être », est constitué d'entretiens qui ont été publiés dans une revue qu'il avait fondée. Peut-être avez-vous déjà eu cette revue entre vos mains. C'est une revue qui a été publiée de 1973 à 1993, donc pendant 20 ans, au rythme de 4 numéros par an. Donc, vous voyez, la revue s'appelle « Être approche de la non-dualité ». Donc, ça fait 80 numéros, en fait, pendant 20 ans. Et ces numéros donc, contenaient des entretiens de Jean Klein et des traductions du sanskrit fait par René Allard de Shankara, enfin de grands maîtres de l'Advaita Vedanta, plus aussi des articles d'enseignants de la non-dualité contemporaine. Il y avait des articles de Douglas Harding, par exemple, de Walter Kers, de Nisargadatta Maharaj et d'autres enseignants. Donc, c'est en fait, les 80 numéros de cette revue constituent une anthologie assez remarquable du développement de la non-dualité en France et en Occident en particulier. Voilà. Donc, le livre a été fait à partir de ces entretiens. Et c'est la fille de Jean Klein, c'est Nita, qui donc a rassemblé ces textes et en enlevant des parties parfois un petit peu redondantes, puisque c'était pas destiné à un livre. Voilà. Et en fait, donc, ces entretiens de Jean Klein ont lieu un peu partout en France pendant une vingtaine d'années aussi, notamment dans le sud de la France, à la Sainte-Baume. C'est près de Aix-en-Provence, hein, c'est ça. Aussi en Normandie, voilà, donc dans différents endroits. Voilà. Voilà pour la constitution du livre, et du livre donc, que moi j'ai préfacé. Alors, le livre s'appelle donc « Être approche de la non-dualité ». Approche, c'est un titre assez modeste d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas vraiment faire une thèse sur la non-dualité. Justement, ce serait une façon d'entrer dans la dualité, sans doute. Donc, approche, c'est voilà, on approche la non-dualité. Donc, moi aussi, je propose d'approcher ce livre avec quelques repères. Donc, pour préparer cette soirée, j'ai relu le livre attentivement et j'ai repéré comme ça 4 ou 5 grands thèmes, si vous voulez, qui me paraissent essentiels dans l'enseignement de Jean Klein. D'accord ? Et je propose aussi de vous lire quelques extraits quelques extraits que j'ai choisis du texte. Voilà. Alors d'abord, il y a un petit texte qui n'est pas d'ailleurs dans le livre, mais moi qui m'avait tout à fait bouleversé quand je l'avais lu, c'est le moment où Jean Klein décrit son éveil. Alors, on va voir tout à l'heure ce qu'il entend par éveil. Peut-être vous connaissez ce texte, il est assez célèbre. Voici ce qu'écrit Jean Klein, enfin ce qu'il dit, puisque ça a été mis dans un entretien. Il dit ceci, donc c'est quand il était en Inde, « Un changement complet survint un soir. » Sur Marine Drive à Bombay. Je regardais les oiseaux et soudain, je fus entièrement saisi par eux, comme si tout cela se passait en moi. J'eus réellement connaissance, conscience de moi-même. Le matin suivant, face à la variété de la vie quotidienne, je sus que ma compréhension de l'être était une réalité. La vie coulait sans interférence de l'ego. Je me trouvais dans une paix incomparable. Toute séparation entre vous et moi disparut dans l'unité. Je me connus dans l'immédiat de l'instant présent, dans une liberté, une plénitude, une joie pure. Je ressentais une totale gratitude et non un sentiment traversé d'affectivité. Mon maître m'avait donné la compréhension de la vérité. J'en vivais la lumineuse réalité. Voilà. Donc je trouve que dans cette description de cet éveil, tout Jean Klein se trouve déjà en fait, parce que déjà bien sûr il y a la non-dualité dont on va parler, la non-dualité, plus de séparation entre moi et vous, dit-il, les oiseaux sont en moi, donc là aussi non-dualité entre un sujet et un objet, et puis également l'insistance sur la joie pure, il a écrit un livre, vous vous souvenez, qui s'appelle La joie sans objet, voilà, donc la non-dualité, l'expérience de l'être, la joie pure, la paix incomparable. Donc dans cette expérience, il y a déjà tout ce qui va ensuite développer dans son enseignement. Voilà, enfin, moi, je sais que quand j'avais lu ce texte, voilà, on a déjà un pressentiment de ce que peut être cet éveil. Alors, donc, le livre s'appelle « Approche de la non-dualité ». Alors, comme j'ai dit il y a un instant, non-dualité, c'est une traduction d'un mot sanskrit qui est « advaita ». D'ailleurs, vous voyez, c'est très proche, là, le mot sanskrit, le mot français, « dvaita », dualité. Donc, ce sont des racines communes, en fait, des racines indo-européennes. Et de quelle non-dualité s'agit-il? Alors, dans les textes de l'Advaita Vedanta, vous savez que c'est Shankara qui a été le grand philosophe, le grand maître spirituel de cette tradition. Donc, c'est une tradition indienne, bien sûr, qui commente les Upanishads. Shankara est un philosophe qui a vécu au 8e siècle, à peu près. Et la non-dualité dont il est question dans les textes, c'est la non-dualité d'abord entre le sujet, l'individu et l'absolu. Donc on s'inscrit entre l'atman et le brahman. Il n'y a plus de différence entre un créateur et une créature. Créateur et créature sont encore des illusions. L'expérience de la non-dualité, c'est l'expérience de la non-dualité entre l'individu et l'absolu. L'individu n'est donc pas un individu. Et dans les textes aussi de Shankara, ce qui est frappant, c'est que la non-dualité, c'est aussi la non-dualité entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire que quand on est justement dans la dualité, on se vit soi-même comme un individu à distance des objets. On est un sujet ici, et il y a autour de nous des objets à distance. Non, mais il y a moi ici, là il y a le verre, le mur, il y a vous, donc il y a moi comme sujet, et puis le reste du monde comme objet. Et on se vit comme ça, en fait, sauf dans le sommeil profond, où tout ça s'écroule dans, justement, peut-être ce silence. Mais dès qu'on se réveille, hop, la structure duelle est replacée. Un sujet face à des objets. Sauf dans certains moments où, ces moments de grâce, où tout d'un coup, cette dualité peut disparaître. Par exemple, devant un beau paysage, on peut être tout d'un coup frappé de l'immensité, de la beauté du paysage. On ne pense plus « Ah, comme c'est beau !» On est juste dans le regard. Vous voyez, je pense, par exemple, en Corse, je me souviens de paysages extraordinaires. On peut être comme ça, on peut découvrir, dans le plaisir esthétique, la non-dualité. D'ailleurs, je parle de plaisir esthétique, dans l'art, quand on écoute une belle musique, on n'est plus un individu qui écoute une musique qui serait un objet, on est finalement pure écoute. Dans l'amour aussi, dans la relation amoureuse, on peut vivre une expérience de non-dualité. Mais ce sont des expériences, et très rapidement, la dualité revient dans notre vie. Et du coup, on associe l'événement qui s'est produit, cette paix qu'on a connue, cette joie qui est apparue, on l'associe au paysage. Par exemple, oh, c'était beau, là-bas j'ai vécu un endroit incroyable, enfin un moment incroyable, c'est vraiment très beau. En fait, non, c'est le lieu n'avait été que l'occasion. La non-dualité, évidemment, c'est en nous. Donc, non-dualité, d'abord entre le sujet et l'objet. Alors, voici un extrait du texte. Donc, on pose une question à Jean Klein, on lui demande « Vous parlez d'un sujet et d'un objet. Ont-ils une véritable existence ?» Réponse de Jean « Non, le sujet et l'objet ne sont qu'une création de la mémoire. La conscience et son objet ne font qu'un. La dualité n'est qu'une fiction. Elle a son fondement dans la non-dualité. » Donc la dualité est une fiction, la conscience et son objet ne font qu'un. Le sujet, dit-il, et l'objet ne sont qu'une création de la mémoire. Donc nous fonctionnons à partir de la mémoire. Nous fonctionnons à partir du passé. Voilà, l'individu auquel nous sommes identifiés vient de notre mémoire. Je suis moi, José Leroy. José Leroy, c'est une mémoire des expériences passées. Bon, donc il s'agit de sortir de cette mémoire. Alors, question qu'on pose à Jean. Depuis que l'homme existe, il vit dans la dualité, dans une dualité, et dans les problèmes. Parce que le questionnaire associe dualité et problème, ce qui est assez juste, en fait. Nos problèmes ont commencé quand la dualité a commencé. Donc Jean répond, le problème est un produit de notre imagination. Le monde, chaque situation, se présente suivant le point de vue où vous vous placez. Sur le plan du corps, le monde est sensation. Au moment où vous prenez la position intellectuelle, le monde est mental. Si vous prenez le plan de la conscience, il est conscience seule. La position de la personne vous met dans une apparente dualité. Une relation d'objet à objet, moi et le monde. Avec l'absence de ce réflexe, la séparation disparaît. Le monde est en vous. Il n'a pas une existence séparée de la vôtre. Il est difficile de concevoir que, confrontés à une situation ou à un état, nous ne puissions nous trouver nulle part. Nous ne soyons rien qui puisse être désigné, schématisé. Pourtant, ce que nous ne pouvons imaginer est une immense liberté. La paix et la joie. Dans ce rien, la tension entre les êtres ne peut survivre. L'individualité s'articule totalement. La relation avec l'autre est une communication, une communion parfaite. Alors, ce qui me frappe dans ce passage, c'est, vous l'avez entendu, dans ce rien, en fait. Dans ce rien. Nous sommes identifiés, en fait, à plein de choses. Il va le dire dans le livre, nous sommes identifiés au corps, nous sommes identifiés aux pensées, nous sommes identifiés au caractère, à des tas de choses. Et ces identifications cristallisent quelque chose comme un moi, quelque chose comme une personne. Une personne, forcément, bien séparée des autres personnes, séparée du monde. Mais si, tout d'un coup, si on laissait tomber ces identifications, si on se dégageait de toutes ces caractéristiques, alors nous trouverions ce rien. Ce rien. Alors, rien, ça peut être angoissant, rien. Mais en fait, dans ce rien, il y a la paix, il y a la liberté totale. Parce que ce rien est aussi plein, il est plein du monde. Au fond, pour découvrir cette paix intérieure, il faut accepter de se dépouiller, d'aller vers ce rien. C'est ce que dit Jean Klein. Se simplifier pour expérimenter ce rien qui est toute chose. Alors, non-dualité donc, du sujet de l'objet. Alors, cette non-dualité dans le livre, elle se présente, prend plusieurs formes, et notamment, Jean insiste beaucoup sur la vision non-duelle. Parce que la vision est un sens très, très, très fort d'identification. Les enfants s'identifient à leur corps par la vision, avec le miroir. On se voit dans le miroir, et on commence peu à peu à s'identifier à cette image. Donc la vision est sans doute un des moyens par lequel on s'est identifié au corps. Et donc Jean montre qu'il y a une autre manière de voir, une autre manière de regarder. Question donc dans l'entretien, on lui demande ceci. Vous nous parlez souvent d'observation non duelle. Je ne saisis peut-être pas ce que vous entendez par là. C'est sans doute peut-être aussi notre cas. Qu'est-ce que ça veut dire observation non duelle? Voici ce que dit Jean. Il nous arrive très souvent de regarder quelque chose avec beaucoup d'acuité. Lorsque nous en sommes conscients, notre attention s'éveille. Elle devient pure. Non-duel. Quand elle quitte son caractère fonctionnel, préhensif, et intègre alors sa nature profonde qui est une ouverture réceptive. Tout ce qui est vu, entendu, vécu dans sa potentialité est dans le regard, dans l'écoute. Si cette ouverture est maintenue, elle devient conscience et se reporte sur elle-même. Elle se réfère à elle-même. Nous ne connaissons le plus souvent qu'une attention préhensive. Seul l'artiste, le poète, ont le don de regarder dans cette attente et de laisser parler l'objet. Une distanciation se fait dans ce cas entre la vision et lui, et pour finir, elle se dévoile dans l'observation. Alors là, il y a des éléments très intéressants, je trouve, parce que la vision duelle se caractérise par la préhension. C'est-à-dire que dans la vision duelle, il y a un sujet, donc il saisit les choses. Il saisit les choses parce que son regard est intéressé. Par exemple, je me dépêche pour venir ici à la salle de conférence, je vois un tram, je monte dans le tram est le moyen par lequel je vais arriver ici, donc il est important pour moi d'arriver ici, donc je suis dans une relation de sujet-objet. Le tram est vu à partir de mes désirs, à partir de mes soucis, de mes inquiétudes. La vision n'est pas ouverte, elle est au contraire resserrée. Je saisis les choses. Je vais m'en servir, en fait. D'ailleurs, les choses ne sont pas vraiment vues, elles sont plutôt nommées. Un tram, une rue, une table, une chaise, un micro. On place des concepts sur les choses. Bergson disait ça aussi, le philosophe. Il disait, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous voyons les étiquettes posées sur elles. Je vois une bouteille, un verre. Bon. Donc, je vois des concepts. Je vois des concepts parce que je m'intéresse à leur fonction. Hein. C'est ce qu'il dit ici. Le caractère fonctionnel de la vision est un caractère duel. Mais si nous réussissons à ne plus être dans cette relation intéressée, de saisie, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vision s'ouvre, la vision devient réceptive, elle devient accueil inconditionnel. Et il fait référence ici à des artistes, et c'est vrai que les artistes ont... Les peintres, notamment, on a un peintre ici, Jean-Christophe, les peintres, en regardant avec intensité les objets, cessent de les voir comme des objets. Le verre n'est plus un verre, ça devient un événement singulier, ça devient de l'être pur. Je me souviens là d'un texte que j'avais lu de Giacometti, qui avait son atelier boulevard Montparnasse à Paris. Il raconte, il écrit qu'un jour, en sortant de son atelier, il a vu le boulevard Montparnasse comme il ne l'avait jamais vu, pour la première fois. Et il décrit ce regard comme un regard de pure merveille, un regard d'étonnement incroyable. Ce n'était plus le boulevard que je traverse pour aller acheter mon tabac, pour aller acheter mon journal. Ça devient quoi? Ça devient un événement neuf dans l'instant présent. Et dans cette ouverture, plus personne ne regarde. Le vrai regard, c'est un regard sans personne qui regarde. Sans saisisseur, en fait. Sans saisisseur. Donc voilà, il s'agit d'ouvrir son regard, de se faire artiste, de se faire poète, de laisser les choses apparaître en nous sans que nous cherchions à les qualifier, à les nommer, à nous en protéger. Alors, on lui, toujours sur cette vision non-duelle, on lui demande l'objet considéré comme un obstacle, peut-il devenir une aide, un révélateur? Réponse, vu sous l'angle de la dualité, par un regard intéressé, il est un obstacle. Mais lorsque notre vision devient pure, en l'absence d'un soi-même, il nous révèle la réalité, la plénitude. En l'absence d'un soi-même, c'est ça qui est important. En l'absence d'un soi-même, en l'absence d'un regard, d'un spectateur. Alors on lui pose la question, est-ce le témoin qui en prend acte? Est-ce le témoin qui en prend acte? Encore une volonté de nommer quelque chose. Quoi. Est-ce le témoin qui en prend acte si personne n'en prend acte? Qu'est-ce qu'il regarde? Donc le témoin peut-être. Le témoin, c'est un mot qu'on trouve aussi dans le texte de l'Advaita Vedanta, en sanskrit, Shakshi, le spectateur. Et réponse de Jean, c'est une vision originelle, sans percipient. Alors sans percipient, c'est celui qui perçoit. On devrait l'appeler le percepteur en fait. Mais non, vous le percevant. Mais le percepteur, ça renvoie à autre chose pour nous. Donc sans percipient, sans quelqu'un qui perçoit, ni chose perçue. Votre totalité se saisit elle-même sans intermédiaire. Donc il parle de vision originelle sans percipient. Sans chose perçue, plus d'objet, plus de sujet. Parce que s'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet. Alors, question de quelqu'un qui dit, mais que devient alors le témoin? Réponse de Jean, cette abstraction a disparu. Donc ça peut être une aide au début, le témoin, puisque en effet, peut comme ça peut-être essayer de se dégager de la saisie. Mais il faut encore aller au-delà. Le témoin est une abstraction. Et cette vision conduit à l'ouverture et elle conduit à la joie. La vision est toujours associée à la joie pour Jean Klein. On lui demande, et la joie aussi ? Est-ce que la joie va disparaître avec le témoin ? Réponse, le mot joie est interprété le plus souvent d'une façon psychologique. Vivre sciemment votre absence n'a pas de formulation possible. Peut-être pourrait-on dire état d'amour ? Personne n'aime. Ce n'est pas non plus un état. On n'est nulle part. Et pourtant, éminemment là. Ce que je trouve extraordinaire avec Jean Klein, c'est que ce dont il s'agit de parler n'est pas de l'ordre du langage. On est au-delà du langage. On est au-delà des mots, on est au-delà des concepts. Et pourtant, il y a chez Jean Klein, il y a une capacité incroyable, je trouve, à pointer vers cet état au-delà du langage. Il y a une mélodie, une musique, une poésie qui nous conduit, qui nous donne le pressentiment. On n'est nulle part, et pourtant, éminemment là. Il n'y a plus personne, et pourtant, plus que jamais, il y a présence. C'est quand on croit être là qu'en fait, on n'est pas là. On n'est pas vraiment conscient. Donc il s'agit de... C'est paradoxal. On est dans le paradoxe, puisqu'en découvrant sa véritable absence, on découvre sa véritable présence. La présence de qui ? De personne. D'un témoin ? Même pas. Mais de quoi alors ? C'est indicible. Mais par contre, dans cette expérience, l'amour, la joie surgit. Alors, dans le livre aussi, mais dans tous les autres livres de Jean Klein, il y a une idée qui est centrale, c'est l'importance de l'écoute. C'est sans doute pour Jean Klein le sens le plus important, l'écoute, encore plus que la vision. Il le dit d'ailleurs, j'ai repéré cette phrase, il dit « l'écoute est le plus spirituel de nos sens ». L'écoute est le plus spirituel de nos sens. Alors, c'est une écoute, d'abord, des sons. Mais c'est une écoute sans personne qui entend. Donc, c'est une écoute aussi là, tout à fait paradoxale. Il y a écoute et personne qui entend. Mais en fait, assez rapidement, l'écoute pour Jean Klein, c'est plus que l'écoute des sons. C'est une ouverture à tout ce qui se produit, à tous les phénomènes. C'est une écoute attentive à l'ensemble des phénomènes, aux sons, mais aussi aux sensations corporelles, aux perceptions, aux pensées, aux émotions. Donc, je crois que l'écoute, c'est ce qui pointe pour Jean Klein, c'est ce qui pointe le mieux vers ce que nous sommes vraiment. Notre être est écoute, c'est-à-dire attention infinie. Alors je vous lis sur l'écoute un passage. Il dit ceci, Jean Klein commence, il dit « Il est merveilleux de participer certains jours à des rencontres. On n'a pas besoin d'oreilles pour écouter, ni Dieu pour voir. Vous admirez un coucher de soleil, une œuvre d'art, vous entendez de la musique et il n'y a qu'écoute. Une chose extraordinaire se passe alors. » Question. « Je ne comprends pas très bien. Vous parlez d'entendre de la musique et rien n'est perçu, rien n'écoute, rien n'est entendu ?» Réponse de Jean. « Vous pensez à une observation dirigée. Vous êtes concentré sur ce qui vous préoccupe. Quand l'attention est multidimensionnelle, c'est en quelque sorte une visibilité sans vision, une écoute sans audition. Bien sûr, les yeux sont là, les oreilles aussi, mais sans entendre, si l'on peut dire. Nos organes fonctionnent normalement, la chose est vue, entendue, mais rien de précis, de catalogué. Sinon, vous auriez établi une relation avec l'objet en cause. » Donc c'est toujours la même idée. Quand notre observation est dirigée, quand nous voulons saisir les choses, nous n'entendons pas vraiment. Et Jean continue, notre être est écoute. une attention silencieuse, au sein de laquelle les bruits se manifestent, mais aussi les perceptions, les pensées. L'écoute, ici, désigne l'absolu espace de la conscience, vaste comme le monde et clair comme la lucidité de l'être. L'écoute, je reprends, l'écoute désigne l'espace absolu de la conscience, vaste comme le monde et clair comme la lucidité de l'être. En fait, voilà ce que nous sommes vraiment, écoute, nous sommes attention. Mais c'est vrai que la plupart du temps, nous ne fonctionnons pas à partir de cette ouverture. Nous avons un fonctionnement limité. Nous écoutons ce que nous voulons bien entendre, ce qui nous intéresse. Nous regardons ce qui concerne notre moi. Et nous sommes là dans la dualité. Donc, il s'agit de s'ouvrir. Il s'agit de s'effacer, en un sens, pour que le monde advienne. Et là encore, c'est paradoxal, c'est dans notre absence que le monde est présent. Si nous, nous sommes présents, le monde est absent, parce qu'on ne voit pas le monde. On voit ce qui nous intéresse. On voit ce qui nous intéresse. On voit 5 degrés du monde, quoi, à peu près. On voit, ça c'est mes problèmes, gardez les vôtres, merci, j'ai les miens, ça va. Donc, il faut passer à une ouverture de 180 degrés. Jusqu'à 360 degrés, une ouverture absolue. Mais nous sommes ouverture absolue déjà. En fait, Jean va le dire dans le livre, il n'y a rien à créer. Nous sommes déjà cette ouverture absolue. Nous sommes déjà pur espace, vaste comme le monde. Et donc, ce qu'il s'agit de réaliser, c'est ce que Jean appelle le silence. Ce ne sont pas des oreilles qui entendent, c'est le silence. Notre vraie nature est silence. Il y a un de ces livres qui s'appelle « À l'écoute du silence ». Nous sommes silence. Donc tous ces mots pointent vers le silence. Et donc on pose la question, je vous parle maintenant du silence, on pose la question à Jean Klein. Quand je contemple une situation, je ne discerne pas un arrière-plan. Je ne discerne pas être en arrière-plan. Donc là, c'est quelqu'un qui témoigne de sa difficulté à aller au-delà des pensées, au-delà des sons. Et Jean répond, lorsque vous connaissez de longs silences, de longs moments de silence, sans rien à enlever, rien à ajouter, vous êtes dans un état de plénitude. Vivez-le consciemment. Apercevez peu à peu que vous êtes parfaitement présent. Ne qualifiez pas, ne dites pas que j'ai été dans un grand confort, une grande paix, car ce serait appauvrir ces instants de grâce, ce serait une profanation. Et après, il y a ce très beau texte sur le jeu qui est construit, notre moi, notre personne. Donc Jean dit, je est une pensée, je est une image. Vous la connaissez, vous savez de quoi elle se compose, vous voyez qu'elle change constamment. Vous ne pouvez pas parler d'un moi, mais de milliers de moi. Si vous vous identifiez avec cette image, vous vivez de manière fractionnelle, restrictive, enfermée dans un carcan de peur et de complexe. Ne vous prenez pour rien. Vous ne vous poserez plus cette question. Vous connaîtrez une parfaite humilité, une parfaite simplicité, ouvert à tous et à toutes, sans séparation d'aucune sorte. En vous objectivant, vous vous séparez de votre environnement. Seulement, ne réalisez pas cette transformation sur le plan de l'idée, ce serait sans valeur. Restez dans ce silence qui vous permet d'être. Restez dans ce silence qui vous permet d'être. En fait, voilà, nous sommes, vous savez, dans l'Advaita Vedanta, il y a cette image célèbre de la corde et du serpent. Hein, nous marchons dans la pénombre, en plus en Inde, il y a beaucoup de serpents. Donc, on croit voir un serpent, on fait un bond de 2 mètres, et en fait, c'est juste une corde. Ah, on s'était trompé. On a eu très peur. Donc, on a projeté sur la corde notre image du serpent. On a pris la corde pour le serpent. Et là, c'est pareil. Nous projetons sur ce silence, sur cette absence, sur ce rien qui est tout, sur cette conscience, nous projetons des images. L'image de l'individu, l'image d'un caractère, l'image d'un corps, l'image de pensée. Et on prend peur, forcément, puisqu'on vit dans la dualité. Qui dit dualité dit peur. On prend la corde pour le serpent, on prend la conscience pour un individu. Alors, dans le livre aussi, on me pose la question, comment faire pour l'atteindre ? Comment faire pour atteindre cet état ? Que faut-il chercher ? Comment le chercher ? C'est une question importante. Mais il ne suffit pas que qu'on ait un programme, qu'on ait un menu, on a envie de manger vraiment le repas, quoi. Comment faire pour atteindre cet état ? Eh bien, chercher à l'atteindre, c'est la meilleure façon de le rater. Oui. Parce que si nous cherchons à l'atteindre, nous projetons cet état dans le futur. Nous le projetons dans un ailleurs et nous ne sommes plus dans l'instant présent. Or, ce que nous sommes est dans l'instant présent. Ce silence est dans l'instant présent. Donc, dès que nous mettons... C'est paradoxal, parce que dès qu'on se lance à la recherche de cet éveil, de cette illumination, de cette plénitude, de cet un, déjà, en fait, on s'en éloigne. Donc, il faut cesser de chercher. D'autre part, si nous cherchons cet objet, nous devenons un chercheur, nous nous identifions au chercheur. Or, c'est le chercheur le problème. C'est lui, c'est encore une image collée sur la corde. C'est notre état naturel. Il n'y a rien à chercher. C'est un soulagement. Je veux dire par là que on n'a pas besoin de. C'est pas comme passer le bac ou passer la grègue ou voilà quoi. C'est déjà là, sans effort. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Franck Thérault, peut-être vous connaissez, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de ne rien faire. Oui. En parlant de cet éveil, l'art de ne rien faire, voilà. Ne rien faire. C'est difficile de ne rien faire parce qu'on est tellement habitué à chercher, à faire, que peut-être cette détente, ce lâcher-prise nous est difficile. Hein? On aime bien chercher midi à 14h, comme on dit. Oui. Alors, voilà ce que dit Jean de ce non-effort. Il dit ceci. Comme c'est notre état naturel, chaque effort pour le trouver ne peut que nous en éloigner. Acceptons tout d'abord l'idée que nous sommes cette liberté. Nous l'avons. Alors pourquoi nous évertuer à l'atteindre ? Atteindre quoi ? Une compréhension en profondeur arrêtera tout dynamisme de recherche qui se mettra au repos. Cette tranquillité sereine qui coiffe en quelque sorte l'agitation et la sérénité n'est pas mentale. Elle est constante, absolue. Tant que nous croyons avoir quelque chose à gagner, si nous nous fixons un but, un résultat, nous nous écartons de la réalité. Alors, donc, question, mais puisque vous nous dites qu'il n'y a rien à atteindre, rien à chercher, nous n'avons donc rien à faire ? Réponse, chercher, atteindre est une projection dans un espace-temps qui ne peut se produire avec ce que vous connaissez déjà. Or, ce que vous êtes foncièrement ne se laisse pas représenter. Constatez-le lucidement, calmement. Un lâcher-prise se produira. Immanquablement. Explorez. Non ce que vous lâchez, mais l'acte lui-même. Le seul fait de ne pas intervenir. Toute autre démarche maintient la personne au premier plan. Donc, il s'agit de lâcher prise, de voir qu'il n'y a pas de chercheur, de voir qu'il n'y a personne ici, sinon une permanence. Alors, cette permanence, cette conscience, dit Jean Klein, vous êtes cette permanence. Vous ne pouvez la quitter même un instant. Vous pouvez vous trouver sans penser, mais vous ne pouvez jamais cesser d'être ce que vous êtes foncièrement. Félicité. Merci beaucoup d'être venu, merci de votre écoute.